Alors, donc, s'agissant du catharisme, je vais proposer une introduction historique assez longue et ensuite une analyse d'un document tout à fait précieux et exceptionnel, puisqu'il sort de la main même d'un cathare. Alors que ce genre de document est très très rare, hein, très très rare. Tout ce que nous connaissons sur les cathares, nous le savons par des inquisiteurs, vous voyez, donc, qui ont combattu cette hérésie. Pour éclairer historiquement cette hérésie, ce mouvement plus exactement, il faut le situer dans les nombreux mouvements évangéliques qui ont fleuri à partir de l'an 1000 en Occident jusqu'aux deux tiers du XIIIe siècle, ces deux tiers du XIIIe siècle marquant un déclin quand même du catharisme. Il y a de très nombreux mouvements de contestation de l'Église catholique qui se font jour alentour de l'an 1000, et le catharisme apparaît comme la queue de la comète, d'une longue comète, puisque le catharisme, on note ses premières manifestations au milieu du XIIe siècle. Mais c'est de fait le seul de ces mouvements dont le grand public conserve quand même la mémoire, alors qu'il n'y a plus d'institution pour représenter les cathares. Hein. Et alors, étant dit même que le mouvement vaudois qui est né à peu près à la même époque, il y a encore une église vaudoise, enfin, qui fait partie d'une fédération protestante, et le Saint-Père, il y a 2 ans, je crois, est allé en visite au temple vaudois qui se trouve près de Saint-Pierre. Ces Vaudois sont largement ignorés aujourd'hui, leur existence même est connue de très peu de personnes. Alors pourquoi le catharisme marque-t-il encore aujourd'hui à ce point les imaginations ? On peut invoquer le caractère épique que l'on prête à la résistance qu'ont opposé dans le Languedoc les cathares aux forces conjuguées de l'Église et du roi de France. Et on sait l'amitié qui liait Saint-Dominique, notre fondateur, à Simon de Montfort, qui était surnommé le fléau des cathares. Et Saint-Dominique, on essaye de le faire oublier, bien sûr, présentant sa prédication, son œuvre de prédication, qui était vraiment une nouveauté à l'époque, comme une chance pour les cathares à saisir, parce qu'autrement, il y allait y avoir Simon de Montfort qui allait les massacrer. Et Saint Dominique le disait expressément. Le caractère inexpliable de cette croisade est symbolisé par la fameuse, le mot fameux qu'on prête à l'abbé Arnaud Amalric, légat du pape, selon une tradition qui est fausse quand même, « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». C'était, paraît-il, en 1209, devant le siège de Béziers. Et on connaît bien sûr le fameux bûcher des Albigeois en 1244, devant la forteresse de Montségur, là où périrent quelque 200 parfaits qui avaient refusé de renier leur foi. Par ailleurs, la croisade contre les Albigeois fut avantageuse au roi de France, qui a réduit à cette occasion le comte de Toulouse à une vassalité très étroite, après que le comte de Toulouse avait favorisé justement les cathares. Et ainsi, la résistance cathare était devenue en Languedoc, encore aujourd'hui, comme l'emblème de l'autonomie d'une région face à l'ordre parisien. On ne nous aime pas beaucoup, nous les Dominicains, dans ce pays cathare, bien sûr. Cependant, je pense qu'il ne faut pas rendre compte de la naissance de ce mouvement cathare comme des autres mouvements de contestation anticatholique voire des motifs politiques ou économiques, comme on le fait parfois. La politique et l'économie peuvent être des causes occasionnelles, mais l'inspiration, au départ, est vraiment religieuse. La preuve en est que, dès le XIe siècle, elle fut le fait d'individus isolés et surtout sur toute l'Europe chrétienne. Hein ? Le Xe siècle de l'histoire de l'Église a été flétri par le cardinal Baronius au XVIe siècle, grand historien, comme étant celui de la pornocratie pontificale, cela veut tout dire, hein, sur le déclin moral du clergé de l'époque et du scandale que ça a provoqué. Un clergé souvent, parfois marié ou concubinaire qui dépendait pour assurer son train de vie et garantir ses héritages des bonnes grâces des seigneurs locaux. Ça ne favorisait pas beaucoup l'indépendance de l'Église. Alors, bien sûr, il y eut, pour faire face à cela, la fameuse réforme grégorienne, l'imposition en particulier du célibat ecclésiastique. Mais ce mouvement de réforme, qui était aussi spirituel, n'a pas complètement convaincu. L'Église n'a pas pu entièrement intégrer à son ordre tous les mouvements de contestation qui se faisaient au nom de l'Évangile. Bien sûr, certains évangéliques, dirons-nous, furent les fondateurs d'ordres érémitiques avec une tendance ascétique marquée. On peut citer Jean Galbert de Vallombreuse, Saint Robert de Molèmes et Citeaux. Mais tout cela, n'arrêta pas la contestation. Hein. Et il s'agit, répétons-le, d'initiative personnelle, puisque le nom du fondateur reste attaché à ces mouvements, comme un certain Pierre de Bruys qui donne lieu aux Pétrobusiens, le moine Henri et les Henriciens. Vous voyez, et bien sûr Pierre Valdo, au milieu du XIIe siècle, qui donne les Vaudois dont je vous ai déjà parlé. Alors, ces mouvements ne se signalent pas d'emblée par une doctrine particulière, mais par des mœurs communes dont les plus remarquables sont l'adoption du végétalisme, c'est-à-dire le refus de la consommation non seulement des viandes, mais des œufs et du fromage, tout ce qui sort des êtres vivants. Et il y a un refus en outre du baptême qui est remplacé par un baptême spirituel, si vous voulez, avec une bénédiction prononcée par l'assemblée des croyants qu'on appelle le consolamentum, la consolation. La pratique de la continence aussi, c'est un ascétisme au départ. Pierre Valdo était un riche marchand de Lyon et il a abandonné tous ses biens et recouru à la pauvreté radicale et mendiante. Cette émergence des Vaudois et des Cathares mérite d'être éclairée par l'époque. Le XIIe siècle européen s'étant signalé par un essor économique et démographique remarquable. Cela a pu conduire des chrétiens fervents à se demander si le prix qu'on accordait de la sorte à la vie sur la terre ne risquait pas d'engager un oubli au moins objectif de la destinée éternelle de l'homme. Pourquoi amasser ainsi des richesses corruptibles, dit l'Évangile ? Pourquoi donner même la vie à des enfants et tenter ainsi de prolonger son être après soi sur la terre, alors que Jésus enseigne en Saint-Luc 21-24 que les enfants du royaume des cieux ne prendront ni femme ni mari parce qu'ils ne peuvent plus mourir. Et c'est ainsi que ces mouvements qui étaient au départ moraux, pratiques et en conséquence opposés au monde et à l'Église ne devait pas tarder à se donner un corps de doctrine, une orthodoxie qu'on était tenu de confesser. Et cela d'autant plus facilement que les partisans de ces mouvements étaient animés d'un grand zèle apostolique qu'ils nourrissaient par une fréquentation assidue des Écritures. Ils les connaissaient très bien, un peu comme aujourd'hui les témoins de Jéhovah, et elles forment la base de leur argumentation. Et ce fut pour leur répondre que saint Dominique et ses religieux adoptèrent la même méthode de prédication itinérante avec organisation de controverses sur les places publiques, voire dans les maisons des particuliers et des auberges. Les gens d'église vont désigner ces chrétiens dissidents sous l'appellation générale d'hérétiques, mais aussi bientôt de manichéens. Ils ont le sentiment, en effet, d'après de ce qu'ils connaissent de leurs opinions, qu'ils renouvellent l'antique doctrine que saint Augustin avait embrassée dans sa jeunesse, puis combattue dès lors qu'il s'était fait catholique. Cette doctrine tient que le bien et le mal sont deux principes souverains et coéternels. Cela contre la doctrine catholique qui professe un unique principe souverain et bon, le mal n'étant qu'une déficience manifestée dans la création, bonne dans son principe bien sûr, puisque ouvrage de la bonté et de la sagesse divine, mais faillible, tout simplement parce qu'elle n'est pas Dieu. Le manichéisme n'est que de manière accidentelle la doctrine de Mani, ce prêtre persan du IIIe siècle. Et c'est pourquoi, à mon avis, les recherches des historiens n'ont pas été probantes, qui ont tenté de rattacher ce néo-manichéisme du XIIIe siècle au manichéisme antique par toutes sortes de filiations qui me paraissent très hypothétiques. On voit bien, en effet, que ce manichéisme peut être de tous les temps et de tous les pays, en particulier de notre temps, et nous voyons certaines manifestations matériellement manichéennes, nous verrons, même chez des catholiques. On voit, d'après l'exposé qu'on a fait de ces principes, qu'il s'agit d'abord d'une philosophie et d'une métaphysique. Il s'agit de méditer d'abord sérieusement sur ce qu'est l'esprit, une réalité irréductible au corps et à la matière dont notre corps se compose. L'esprit est infiniment plus noble que la matière, puisqu'il pense la matière et qu'il est capable de penser l'univers et l'éternité. L'esprit a de la sorte quelques relations directes avec Dieu. Et si nous sommes susceptibles de voir notre condition spirituelle s'améliorer, ce ne peut être que l'esprit qui est le siège de cette amélioration, de ce salut, si vous voulez, plutôt que la matière et la chair qui sont sujets au mal et à la corruption. C'est quand même la grande énigme. Nous avons un esprit immatériel et puis nous avons ce corps qui est voué à la corruption. Et professer la résurrection des corps, c'est contre-intuitif, si vous voulez. Pour être sauvé, il convient de vivre selon notre nature spirituelle, disent les cathares, plutôt que dans l'attachement aux choses du monde visible et de la chair qui sont soumises directement, elles, au principe du mal. Et cette réflexion peut donner lieu à ce que l'on appelle en théologie une religion naturelle, dont les enseignements et les pratiques procèdent d'abord d'une réflexion humaine et non pas d'une révélation. Alors, dans le cas des cathares, cette réflexion a pris les habits, si vous voulez, de la révélation chrétienne qu'ils trouvaient tout fait. Mais dans cette optique, Jésus, comme Bouddha d'ailleurs, qui peut servir de maître aux manichéens, Jésus est surtout un maître. Il est venu sur la terre pour nous enseigner ses vérités que tout esprit humain peut découvrir, mais que de fait, embarrassé qu'il est par les liens de la chair, il ne parvient pas à découvrir. Le manichéisme, dis-je, revêt les habits de la révélation chrétienne et il connaît les Écritures sur le bout du doigt, s'agissant des cathares. Et les traités que l'on produit à l'époque sont entièrement composés de citations de l'Écriture, mais vous le verrez, le sens en est complètement subverti. De même que la communauté cathare s'organise en contre-église romaine, avec des structures d'église, une communion d'église locale, dont la communion se vérifie au fameux concile de Saint-Félix de Caraman en 1167. Elle ne parvient pas, cependant, à se donner un chef analogue au pape. Mais lors de ce concile, il y a une unité doctrinale qui se réalise par le rejet de ce que l'on appelle le dualisme mitigé, qui tient que le principe du mal est une créature de Dieu, à savoir le diable. La révolte du diable contre son créateur rend le diable maître de l'univers, le prince de ce monde, pour employer les mots de l'Évangile. Et donc c'est cela qui a été rejeté au concile de Saint-Félix de Caraman, en Languedoc, et ce concile réunissant à la fois le Languedoc et la Lombardie, les deux principaux foyers géographiques cathares. Au XIIIe siècle, ce dualisme mitigé, qui présente quelques analogies avec la doctrine catholique, va reparaître. Nous le verrons. Vous savez que l'histoire est en général écrite par les vainqueurs. Il n'y a guère que la Bible qui fasse exception à cela. Et de sorte que les écrits historiques offrent carrière à la critique historique ensuite pour essayer de percer un jour trop favorable aux auteurs de l'histoire. Et le principal de nos informations sur les cathares, je le disais, il vient des inquisiteurs qui les ont combattus. Alors on peut se dire, on peut les soupçonner d'avoir exagéré l'hérésie cathare pour mieux accabler les hérétiques. Le père Dondaine, qui était de la commission léonine dont je fais à présent partie, a découvert dans une bibliothèque de Florence un manuscrit cathare exposant leur doctrine complet et de la main d'un cathare, d'un dualisme absolu. C'est le traité De Duobus Principiis, les deux principes, le bien et le mal. Vous voyez, donc c'est un traité composite qui comporte des éléments très précieux, en particulier une instruction aux commençants, si vous voulez, une catéchèse. Alors, le père Dondaine fait précéder cette édition du De Duobus Principiis d'un extrait de la somme de Régnier de Saconie, un dominicain, qui a combattu les cathares, qui étaient inquisiteurs. Et donc, il expose la doctrine de ce dualiste absolu, et on peut se rendre compte que l'inquisiteur en question n'a pas trahi la pensée du cathare. Donc, on a là une preuve de la bonne foi d'un inquisiteur, au moins. Il faut dire aussi que le fameux Régnier, ce dominicain Régnier, a été évêque dans l'église cathare, donc il la connaissait de l'intérieur, en Italie du Nord. Et c'était d'ailleurs pas rare que les cathares se convertissent et deviennent dominicains. L'exemple le plus fameux est saint Pierre de Vérone, qui est mort martyr des cathares dans la première moitié du XIIIe siècle. Le catharisme n'est que l'ombre de lui-même, semble-t-il, à cette époque, cependant. Hein. Régnier de Saconie ne recenserait, tout confondu, Languedoc et Lombardie, que 5000 cathares. Bon. Alors, est-ce qu'il ne compte que les parfaits? Ça, c'est difficile à savoir. Quoi qu'il en soit, le frère Régnier avait connu cette doctrine cathare de l'intérieur, et c'est un témoin lui aussi très, très sûr. Le père Dondaine est très méprisant pour ce traité cathare. Il dit « c'est pas la peine de le lire, il vaut mieux lire Régnier, c'est beaucoup plus clair ». Moi, je ne suis pas du tout de cet avis, et je vais vous en... cette lecture m'a assez passionné, et je vais vous en proposer une analyse hein, à présent. Je rappelle aussi que sous ce vocable de cathare, ce vocable de cathare, pardon, est apparu assez tardivement. Et il est courant sous la plume du frère Régnier au milieu du XIIIe siècle. Mais avant, on parlait des Albigeois ou des Garatenses, des Albenses, hein, d'après les foyers et les cités capitales des cathares. Mais, quoique tardif, il veut bien dire ce qu'il veut dire. Il a été donné par les adversaires des cathares et il les signale sous l'aspect le plus frappant, c'est-à-dire cette pureté que signifie le terme cathare, une pureté par rapport à l'usage des corps. Alors que les Vaudois se signalent plutôt par un mépris des biens, les cathares se signalent par un mépris de la chair, du commerce des corps et surtout de la procréation. Et donc, je vais éclairer ces éléments, les éléments de doctrine propres à justifier cette position des cathares. Et puis, je finirai par un bref exposé de la manière dont, finalement, cette crise cathare a été heureuse pour l'Église, en ce qu'elle lui a permis de poser une doctrine très, très équilibrée du sacrement de mariage, puisque c'est à cette époque-là que le sacrement de mariage reçoit une théologie digne de ce nom, alors qu'il avait été très négligé quand même au premier millénaire. On verra pourquoi. Alors, deux points me semblent nécessaires à relever dans la doctrine des cathares. Tout d'abord, l'insistance sur la toute bonté de Dieu, du Dieu bon. Hein. Et ensuite, ce sera après cet exposé théologique, je passerai à l'exposé anthropologique et à la doctrine du salut chez les cathares, si on peut parler d'un salut, puisqu'il ne s'agit pas de sauver l'homme, vous allez voir. Premier point, la bonté divine est affirmée au détriment de la toute-puissance de Dieu. L'auteur de ce traité est frappé de la bonté de Dieu qui est véritablement Père. Et parce qu'il est véritablement Père, il ne saurait être tout-puissant, comme l'affirme le credo catholique. Le reconnaître comme tout-puissant, c'est attenter contre sa bonté. Parce que ce serait lui rapporter l'origine du mal qui se déclare dans le monde et particulièrement le mal de faute qui se commet par les démons et par les humains qui suivent les suggestions du démon. Certaines théologies contemporaines, dites d'après Auschwitz, rejoignent sur ce point la théologie des cathares. Pour ces théologies, Dieu et sa toute-puissance se sont retirés de notre monde. Et Dieu a laissé à l'humanité liberté de se conformer ou non à sa toute-bonté. Sauf que chez ces théologiens contemporains, et c'est une différence essentielle, ce mystérieux retrait de Dieu est supposé volontaire de la part de Dieu. Alors que le Dieu des cathares est véritablement impuissant face au mal, par nature, parce que le mal est un principe substantiel, coéternel au Dieu de bonté, et que le mal reçoit lui-même sous la plume de cet auteur le nom de Dieu. Alors, selon la doctrine des purs, le bon Dieu est souverainement pur, c'est-à-dire pur de tout mal, tandis que le Dieu des catholiques, c'est vrai, veut le mal par quelque côté. Il ne le veut pas de volonté directe, le Dieu catholique, si je vous le dis, mais de volonté permissive et conséquente. Conséquente du plus haut bien qu'il veut pour ses élus, selon le mystère que nous représente la parabole du bon grain et de l'ivraie. L'ivraie est nécessaire, vous diront les agriculteurs, pour que le blé pousse droit et produise un bon fruit. Eh bien, c'est l'image de la condition humaine sauvée chez les catholiques. Pour les catholiques, Dieu démontre ainsi sa bonté et sa puissance tout ensemble, en faisant tout contribuer, même les persécutions, au bien de ses élus. Il l'a manifesté de manière éminente en permettant que son Fils souffre et meure sur la croix pour le salut des humains. Et c'est précisément cela que les cathares rejettent. En tout cas, l'auteur du De Duobus Principis, il nie que le Père éternel ait voulu, même de volonté permissive, la mort de son Fils. Quand l'Écriture dit qu'il l'a livré, il faut entendre qu'il s'est résigné à ce qu'il ne pouvait empêcher, à savoir l'acharnement des diables contre lui. Et évidemment, ça implique qu'on laisse tomber, ne sais-tu pas que je pourrais envoyer des légions d'anges, etc. Pour cet auteur, donc, le Dieu des catholiques est un Dieu dont la puissance est absolue et donc arbitraire. Il écrit que le Dieu des catholiques pourrait, s'il le voulait, s'il lui en prenait fantaisie, détruire le monde. Ce qui est très curieux, c'est qu'on va voir se développer au siècle suivant, au XIVe siècle, des théories de ce genre chez les docteurs catholiques. C'est ce qu'on appelle la potentia dei absoluta, la puissance de Dieu déliée de tout dessein bienveillant, hein, finalement. Alors qu'au XIIIe siècle, où ce cathare écrit, eh bien, la position majoritaire, c'était celle de saint Thomas, hein, la potentia dei ordinata, ordonnée à un plus grand bien. Hein, voilà. Voilà le cadre général, et ça informe, si vous voulez, toute la lecture de la Sainte Écriture. Un des principaux soucis de l'auteur de la catéchèse au commençant consiste à laver le bon Dieu du soupçon de méchanceté que le lecteur de l'Ancien Testament peut concevoir à son égard quand il lit les violences de l'Ancien Testament. C'est un spectacle parfois pénible. Ce n'est pas le bon Dieu qui ordonne aux Hébreux de passer leurs ennemis par le fil de l'épée et jusqu'aux enfants même. Ce n'est pas le Père de Jésus-Christ qui enseigne, puisque Jésus-Christ enseigne l'amour des ennemis. Enfin, le bon Dieu n'est pas l'auteur de la loi de Moïse, puisque la loi de Moïse est une loi punitive et pénale. Et ce ne peut pas être lui qui prescrit, par exemple, en Nombre 15, 32, 35, que soit puni de mort un homme en train de recueillir du bois le jour du sabbat. Voilà. Et puisque saint Jean a dit « Dieu, nul ne peut le voir », celui qui s'est révélé à Moïse pour lui dicter sa loi, ça ne peut pas être le bon Dieu, puisqu'il s'est rendu visible pour lui parler face à face. Et le clou, c'est que la loi écrit « Maudit de Dieu est celui qui pend au bois », donc la loi maudit le Christ Jésus. Et donc la loi de Moïse est l'œuvre du Dieu mauvais. Ce mauvais Dieu est un menteur, il promet et il ne tient pas. Il a promis à Abraham de le rendre possesseur de la terre et finalement, Abraham reste nomade dans le pays de Canaan. Il ne possède pas littéralement la terre. Voilà, et tout, je vous passe d'autres exemples. Je passe à la notion de création. S'agissant de la création, l'auteur du traité ne tient pas, bien sûr, pour un Dieu unique, auteur de la création, créateur de l'univers visible et invisible, comme dans notre credo. Mais il se fait sous sa plume un partage de la création entre le bon Dieu et le mauvais Dieu. Dans l'univers invisible, d'abord, revient au premier Dieu les bons anges et les âmes des justes, au second les démons et les âmes des réprouvés. De l'univers visible, le bon Dieu n'est l'auteur que des quatre éléments, ainsi que du ciel, de la terre et de la mer, de tout ce qui est inanimé, comme un cadre permanent. Mais il n'est pas l'auteur des êtres visibles et vivants qui composent cet univers. Et il n'est pas l'auteur surtout de la différence sexuelle comme condition pour transmettre cette vie. Ce monde des corps est à rapporter à l'ouvrage du mauvais Dieu. Et c'est d'ailleurs le premier point qui est enseigné dans la catéchèse au commençant. C'est du reste un point de désaccord parmi les cathares, je l'ai dit, entre les Albanenses et les Garatenses, du nom de deux villes foyers en Italie, de deux sectes cathares, les Garatenses étant partisans d'un dualisme mitigé dont je vous parlais, l'auteur du mal est étant le diable, et donc une créature du Dieu bon à l'origine. Et il y a une controverse avec de l'auteur du De Duobus Principis contre ces Garatenses, lui-même étant un Albanensis. Soyez conséquents, leur dit-il, avec vous-même et avec vos pratiques qui sont conformes aux nôtres. Pourquoi, si la vie est bonne en son principe, vous abstenez-vous, comme nous, de faire des enfants, de manger de la viande et des œufs ? Réglez votre doctrine sur votre pratique. Si d'autre part le diable était réputé pour une créature de Dieu, il faudrait rapporter à Dieu, en dernière analyse, le mal dont le diable est l'auteur. Toute cette théologie de la création commande bien sûr un enseignement sur l'homme et son salut, et je vais l'examiner à présent. C'est par analogie avec notre doctrine catholique que je vous ai parlé de la création des esprits et des âmes. L'auteur du traité se refuse absolument à parler de création à propos de l'apparition des esprits et des âmes. Parce que créer, pour lui, c'est créer à partir de rien, et il réserve cette création à partir de rien au seul monde visible. Et les esprits et les âmes agents de Dieu ne sauraient avoir été créés. De même, les démons et les âmes des réprouvés. C'est-à-dire qu'ils sont directement issus pour les uns de la substance du Dieu bon et pour les autres de la substance du Dieu mauvais. Et vous le voyez à partir de là, les âmes des humains ne sont pas d'une nature différente de celle des intelligences angéliques. Et la différence vient de cette union au corps qui est accidentelle et qui, pour les âmes des justes, est un malheur. Mais cette distinction, vous le voyez, est transitoire, elle est appelée à disparaître à la fin des temps. Pour l'heure, la condition corporelle couvre l'origine, bonne ou mauvaise, des âmes. Pour les âmes bonnes, cet enfermement dans un corps est malheureux, puisque les substances corporelles sont l'ouvrage d'un Dieu mauvais. Et cela engage une anthropologie strictement divisive entre le corps et l'âme, et cela ruine l'idée même d'humanité, selon laquelle l'âme rationnelle, spirituelle, intellectuelle, est en même temps la forme substantielle d'un corps. Et par là, l'âme humaine est radicalement différente pour l'anthropologie catholique de l'intellect angélique. L'humanité, en ce sens, n'existe pas pour les cathares. Et s'il y a un salut, il ne saurait s'agir d'un salut de l'humanité en tant que tel, mais de la séparation d'un esprit juste d'avec la vie selon la chair. Un autre trait remarquable de la doctrine cathare, c'est la négation conséquente du libre arbitre. Le traité emploie très peu, finalement, le vocabulaire du salut, mais il emploie plutôt le vocabulaire de la création en un sens étendu. Il en fait usage là où la tradition catholique parle plutôt de la grâce. Le Dieu bon, par un acte dit de création seconde, crée les ténèbres. D'après un verset d'Isaïe 45:7, c'est moi le Seigneur qui forme la lumière et qui crée les ténèbres, qui fait la paix et crée les maux. Et créer ici, pour l'auteur, il l'explique, c'est faire d'un juste à un juste d'un pécheur, le passage des ténèbres à la lumière. Vous voyez, créer les ténèbres, c'est faire d'un pécheur un homme juste. Mais cette seconde création, l'auteur nie qu'elle s'opérerait par un renouvellement de l'âme. La bonté de l'âme est déterminée de toute éternité, infailliblement. La volonté est depuis toujours fixée dans le bien et dans le mal, ou dans le mal, et s'il y a un changement dans la conduite, il n'est pas volontaire. Le libre arbitre est une entière illusion que l'auteur dénonce à longueur de page et sur quoi il revient sans cesse. Et il interprète en ce sens la parole du Christ « Je ne fais rien de moi-même ». Voilà, le mal que produit l'âme issue du Dieu bon ne vient pas d'elle-même, mais de sa liaison avec le corps. Il faut essayer de hâter cette séparation d'avec le corps, c'est le but la discipline cathare. Cela est donc propre à vous libérer de toute culpabilité, même si cela ruine la notion de mérite. L'homme n'a pas de part à son salut, parce qu'en réalité, il n'y a pas véritablement de salut. Poser un libre arbitre, c'est envisager qu'un esprit issu du bon Dieu puisse faillir. Et c'est du même coup rapporter le mal qui est issu de la faillibilité au bon Dieu, qui permet cette possibilité de mal faire. Et c'est blasphémé pour l'auteur du traité. L'auteur s'en prend à un certain maître Guillaume, un cathare, mais qui fricote avec la doctrine catholique. Pour les catholiques, on peut poser le libre arbitre et sa faillibilité sans rendre Dieu responsable de n'avoir pas fait les anges et les hommes aussi parfaits que lui. Les créatures spirituelles sont faillibles simplement parce qu'elles ne sont pas Dieu. Cette distinction précisément que l'auteur du traité n'admet pas. Les esprits sont infailliblement fixés dans le bien. Ils sont issus de Dieu et retournent à Dieu, comme on verra au dernier jour. Et le jugement qu'on prononcera ne sera pas fait sur l'usage d'un libre arbitre, qui est encore une fois une illusion. Il indique que poser le libre arbitre, c'est poser la contingence et c'est attenter contre la science de Dieu, qui ne peut pas connaître les futurs contingents. La distinction commune et intuitive entre la puissance et Et l'acte est une illusion, est une erreur. Nous ne sommes pas en réalité en pouvoir d'agir autrement que nous agissons en effet. Et c'est l'acte seul, une fois qu'il est posé, qui enseigne ce que l'homme pouvait faire. Donc, il n'y a pas de distance entre la puissance et l'acte. Donc je passe au dernier point. Le catharisme est l'élaboration de la doctrine catholique du mariage. Le catharisme présenté comme ça a quelque chose de terrible, mais en réalité, il était vécu comme d'une grande consolation, parce que si on s'estimait juste et les bonnes pratiques que l'on faisait l'attestaient, eh bien, on avait sujet d'être heureux. Et on ignorait cette culpabilité qui est vécue comme le versant sombre, si vous voulez, du catholicisme. La justice des œuvres était une sorte de gage de retour à ce Dieu bon à quoi on appartient de toute éternité. La parfaite justice impliquait un renoncement à l'œuvre de la perpétuation de la vie par le commerce des corps. Alors, mais l'engagement de tenir une continence parfaite instaurait une distinction entre précisément les parfaits et les autres. Le commun des cathares ne s'engageant au moment où il recevait le consolamentum, l'équivalent du baptême mais sans eau, de s'abstenir de nourriture tirée d'êtres vivants ou issue d'êtres vivants comme les œufs et le fromage. C'est une conduite matériellement conforme, si vous voulez, à celle de certains écologistes aujourd'hui, mais ce n'était pas inspiré, vous le voyez, par quelque révérence envers la vie des bêtes. C'était tout le contraire. Et on pense que ceux qui ne pouvaient tenir la continence parfaite devaient au moins recourir à des pratiques contraceptives. Parce que ce que l'auteur du traité annonce comme condamnable, c'est surtout le fait d'avoir des enfants qui perpétuent ce monde mauvais, ce monde de la vie. Alors, il est certain que l'essor du catharisme a été décisif pour la mise à l'honneur par l'Église du mariage, à l'heure où les maîtres élaboraient la notion devenue classique désormais des sacrements comme signe efficace de la grâce de Dieu. Cette reconnaissance du mariage comme une chose sainte n'allait pas de soi au départ du christianisme. Au regard de la tradition, en dépit de la présence du Seigneur aux noces de Cana, le christianisme s'est en effet distingué au premier temps de son histoire par une mise à l'honneur de la continence volontaire pour attester dès cette vie l'espérance du royaume à venir où on ne prend ni femme ni mari et on est comme des anges. Les premiers chrétiens se mariaient non pas par des cérémonies religieuses, mais selon des cérémonies toutes civiles en usage dans leur pays, avant d'aller demander éventuellement la bénédiction à l'évêque ou par la suite au curé. Ce ne fut qu'au VIe siècle que des mariages furent célébrés dans un cadre ecclésiastique, mais uniquement pour les clercs minorés, ceux qui recevaient les ordres mineurs, les serviteurs de l'Église, si vous voulez. Et le rituel de ces cérémonies était calqué sur celui de la consécration des vierges. C'était la femme qui prenait Marie comme la Vierge consacrée épousait le Christ. C'était pas la cérémonie symétrique que nous avons aujourd'hui. Le mariage, donc, vous le voyez, n'avait de sens que par rapport à la vie religieuse. Et au IXe siècle, tout semble changer, mais en apparence seulement, les mariages sont célébrés non certes dans l'Église, mais au moins devant l'Église, sur le parvis de l'Église, in facie ecclesiae, disait-on, c'est une formule qui est demeurée assez longtemps. Mais en réalité, dans le régime de féodalité qui succédait à l'Empire, les clercs seuls, parce qu'ils avaient quelque instruction, pouvaient tenir des registres des mariages pour garantir justement les effets civils du mariage et la transmission des héritages. C'était, si vous voulez, un rôle de notaire et ça n'avait rien de directement religieux. Et tout change justement avec les mouvements que l'on a dit, ces mouvements contestataires de la bonté du mariage et contestation particulièrement marquée chez les cathares. Et on voit l'enjeu de tout cela par ce que je viens de vous dire sur les cathares. Il s'agissait de rien de moins que d'affirmer la bonté de la création visible, de la vie et de l'humanité comme sujet du salut. Et cette nécessité a vaincu toutes les objections qu'on pouvait faire à l'introduction du mariage dans l'ordre des sacrements. Alors que le mariage, les sacrements sont des sacrements du salut éternel, alors que le mariage regarde plutôt à l'origine de l'humanité, plutôt qu'à l'aube des temps humains, si vous voulez. Il s'agissait enfin de proclamer la dignité des corps et du commerce des corps en tant qu'humains. Et c'est à l'époque où le catharisme subsistait encore que saint Thomas d'Aquin décrit le mariage comme cette amitié spirituelle totale qui inclut entre humains la concession de ce qu'il appelle le jus in corpus, le droit sur le corps, et l'accès à ce que la personne dissimule à tout autre qu'à sa femme ou à son mari. Voilà, j'ai terminé, je conclus sur le fait qu'on peut voir dans le catharisme l'accomplissement de ce que saint Paul prédit à Timothée dans la première lettre, chapitre 4, versets 1 et 3. L'Esprit dit expressément que dans les temps à venir, quelques-uns abandonneront la foi, qui interdiront le mariage et l'usage des viandes que Dieu a créées pour être reçues avec action de grâce par les fidèles et par ceux qui connaissent la vérité. Mais on ne peut, je le répète, assigner de limite dans le temps à l'émergence de ce qui n'est que de manière accidentelle une hérésie chrétienne. On voit le manichéisme dans tous les pays, finalement, et dans tous les temps. Cela correspond non pas à une réflexion sur la révélation, comme le protestantisme, mais plutôt à un pli ordinaire à l'esprit humain devant la difficulté d'accorder sa nature spirituelle et sa condition charnelle. Voilà. Donc, à mon avis, il ne faut pas. C'est une hérésie chrétienne, mais si l'on veut, avec beaucoup de nuances. Voilà, j'ai terminé cet exposé. Merci de votre attention. Pardon ?
Il faut peut-être pas qu'on vous retienne trop parce que vous avez une question. Je ne sais pas si vous avez
une question. Oh, j'habite tout près. Hein,
S'il y a une question. Voilà. Gabriel.
Oui, alors, j'ai dit que les Vaudois se caractérisaient plutôt par un renoncement, un rejet des biens, alors que ce qui caractérisait les cathares, c'était surtout le rejet du mariage et de la chair. S'agissant des hérésies médiévales, enfin tardives, c'est très différent parce que je pense qu'elles sont véritablement chrétiennes. Et les Vaudois aussi. Il y a vraiment que le catharisme qui me semble être relevé de la religion naturelle. Le rapport à la révélation est, à mon avis, accidentel. Oui, effectivement, j'en ai parlé d'ailleurs, mais je ne pense pas que c'est la cause occasionnelle, je pense. Hein. Il y avait véritablement une raison spirituelle au départ. Hein. Et j'ai tâché d'éclairer l'émergence des Vaudois et des cathares par ce 12e siècle finalement où ils naissent, où on assiste à un développement de la richesse avec le mouvement communal et puis à une certaine poussée démographique. L'attitude à avoir face au bien et face à la vie finalement. Bon, c'est pas exactement symétrique parce que vraiment, je pense qu'il y a quand même quelque chose de chrétien chez les Vaudois, alors que chez les Cathares, c'est beaucoup plus problématique, quoi.
Alors je me suis dit, dans l'Église grecque, alors la théologie du mariage est un petit peu différente, mais enfin c'est quand même aussi pour eux un sacrement, et à ma connaissance, est-ce qu'ils ont eu l'équivalent des catharies, ces théories-là, et sinon, par quel chemin ils sont arrivés finalement un peu à la même conclusion que l'Église latine?
Je ne sais pas, il y a eu effectivement des foyers de manichéens en milieu grec. Oui. Alors là, je connais moins bien, mais je sais que les historiens du catharisme ont essayé de faire justement la jonction entre les deux mouvements. J'ai exprimé des doutes. Je suis absolument incapable de Je suis d'une ignorance affreuse s'agissant de la théologie orientale de cette époque et je ne pourrais pas vous éclairer. Enfin, en tout cas, oui, c'est l'élaboration de la doctrine du mariage. Elle a posé beaucoup de débats à l'université et à mon avis, elle ne peut s'expliquer que par ce contexte. Que par ce contexte du catharisme. Il s'agit non seulement proclamer le mariage comme sacrement du salut, mais de proclamer la bonté de la nature comme base du salut. Hein, voilà.
Et oui, il y a même la sacramentalité comme telle qui est impliquée là-dedans, en fait. Du mariage en sacrement, on dit, mais finalement, toute la mobilisation de l'ordre matériel par les sacrements, que ce soit l'huile, que ce soit l'eau, que ce soit le pain, elle joue un rôle, en fait, dans l'œuvre de la rédemption. C'est pas une faute.
Oui, voilà, c'est le... Voilà, tout ce que dit saint Thomas dans le traité des sacrements sur la nature sensible qui sert, si vous voulez, de degré à travers les sacrements, d'accès à la réalité intelligible suppose cette perception unitive de l'humanité entre corps et âme, quoi. Hein, C'est dans le quatrième livre des sentences. Le mariage, c'est pour saint Thomas la plus grande amitié Et donc, ça implique un autre rapport, évidemment, avec la sexualité, qui implique que la personne soit corps et âme. Et le don de tout soi-même implique le don du corps, d'où l'empêchement d'impuissance, dont on a parlé à l'époque. Pourquoi interdire le mariage quand l'homme est impuissant? Eh bien parce que on n'accède pas à l'entièreté de la personne si on ne peut pas se donner dans cette. Donc, vous voyez que ça engage l'unité de la personne corps et âme.
Ça, c'est vraiment très, très puissant. Le fait que le mariage symbolise l'union du corps et de l'âme, finalement. C'est-à-dire que, ou bien on tient les deux, ou bien on a des désaccords avec les deux, c'est ça.
Oui, parce que le commerce des corps n'avait aucune signification spirituelle.
Et comme l'union parfaite du corps et de l'âme, c'est la résurrection, on comprend pourquoi le mariage, finalement, a aussi quelques paradoxalement, malgré la parole de Jésus.
Mais c'est.
Le rapport avec la résurrection.
Mais il faut bien se rendre compte même dans la tradition catholique, avant cette époque, le mariage était vraiment un sous-état, quoi. Quand certains théologiens disent que, Saint Thomas dit que Adam et Ève étaient destinés à s'unir corporellement, c'est presque une révolution. Oui, c'est ça.
Merci infiniment.
Il ne faut pas quand même. Merci de votre attention.